restrictions, mais les conditions ne nous l'ont pas permis. Donc ce qu'on a souhaité, ce qu'on a réussi à faire en réduisant la voilure, c'est de créer un groupe de travail qui mobilisait 3 élus de la majorité, 2 élus de la minorité et 5 personnes de la société civile, choisies pour leur diversité et leur connaissance du milieu associatif. Donc ce groupe de travail a été chargé de lire les dossiers qui avaient été soit déposés sous forme papier, soit en ligne, puisqu'on avait fait aussi un outil de saisie numérique, qui est bien sûr perfectible, mais c'est la première année, donc c'est une tentative. Et l'idée, c'était de produire un avis sur le descriptif de la demande et de réserver dans un petit coin un avis pour, après ce conseil municipal, retravailler les questions de est-ce judicieux de demander autant, aurions-nous pu donner plus, est-ce que ça tient la route, bref. Donc des questions en fait qu'on se posera à l'issue de ce conseil municipal. Et donc le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'était de dire, à activité égale, reproduit la même subvention que dans l'année 2019, qui nous servira de référence, puisque c'est une année sans Covid, une année a priori normale. Les avis descriptifs des actions ont tenu compte de ça. Et ensuite, les élus de la majorité se sont réunis, ont réexaminé chacune de ces propositions et ont pris leurs responsabilités politiques. En validant, et en fait ça a été validé à 100%, les propositions du groupe de travail. À noter que la mise en paiement de ces subventions se fera à l'issue de ce conseil municipal, sous réserve d'annulation de manifestation, puisque on a des informations qui tombent régulièrement et des manifestations qui sont annulées. Voilà, à l'issue, donc je parle un tout petit peu de ce qui va suivre pour qu'on ait vraiment ça en tête, hein, je pense, c'est important. Il s'agit de donc re-rencontrer ce groupe de travail pour avoir un avis plus fouillé sur les situations difficiles, sur les endroits où il y a eu du litige, du frottement, ou des endroits où ça nous pose question. Et ensuite, une fois qu'on aura établi les questions cruciales sur lesquelles on voudrait se questionner plus largement avec la population, on aura un entretien, avec une consultation ouverte avec la population et les associations, bien sûr, pour leur demander leur avis. On en profitera également pour faire le point sur les moyens mis à disposition par la commune aux différentes associations et des moyens qui sont parfois très conséquents, parfois inexistants, et on se posera des questions d'équité, de différence de nature d'activité, en tout cas tout ça dans l'esprit d'un soutien fort aux associations, mais en essayant réellement de mesurer ce qui est juste. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le préambule. Je ne sais pas si Nathalie Pelin ou Nadia Nelson, qui faisaient partie du groupe de travail, ont envie de prendre la parole à ce stade.
Je vais essayer. Je ne suis pas très claire, mais je vais essayer d'être claire. Ce que j'aurais aimé, Frédéric, puisque finalement c'est à toi que je voulais poser la question tout à l'heure, c'est que la dernière réunion, celle qui a été la réunion, la dernière de concertation de tout le travail qu'on a fait ensemble, ne soit pas un groupe de la majorité, mais soit le groupe qui a participé, comme Nathalie, comme moi, et que minorité et majorité, ça soit la même chose. Il me semble que tout ce qui est commission de travail, il n'y a pas d'histoire de majorité ou de minorité. Il y a des gens qui essayons de travailler ensemble On a bien travaillé, on a fait un excellent binôme avec Laurence. Et puis la semaine dernière, quand je t'appelle pour savoir pourquoi je n'ai pas eu d'informations sur la dernière réunion qui avait lieu donc lundi dernier, tu me dis que bah oui, mais là c'est la réunion de la majorité. Alors une commission pour moi, elle est consultative. Donc c'est bien à l'ensemble des gens qui sont ici de prendre des décisions après. Donc je ne vois pas pourquoi il y a eu une commission de la majorité lundi dernier à laquelle je n'étais pas conviée ni Nathalie. Parce qu'on a fait un bon boulot. Voilà, c'était ça ma question.
D'accord. Le travail effectivement a été très très bien puisqu'il a été pris en compte à 100%. Je rappelle quand même qu'il y a eu sur certains dossiers, ce groupe de travail a dit c'est un dossier délicat avec certains enjeux politiques et nous nous réservons en fait sur ce dossier et il appartient aux élus de la majorité d'assumer leurs responsabilités, de prendre une décision. Donc il y a eu ce genre de... ça a été rare, hein, mais il y a eu quelques dossiers comme ça. Et pour moi, ça avait tout son sens que nous nous réunissions en groupe de majorité, puis qu'ensuite nous vous rencontrions, c'est ce qui a été fait mercredi dernier, hein, pour vous présenter ce qui avait été proposé et décidé, et ensuite qu'on en parle. Voilà, donc j'entends cette remarque, mais c'était notre choix. Je veux bien entrer dans le détail des subventions. Alors, on va projeter à l'écran et certainement donc que les spectateurs de la visio verront la même chose, je le crois. Donc le détail, vous avez à chaque fois l'année de référence 2019. Vous avez quand même pour information l'année 2020. Vous avez la demande 2021 et la proposition que nous faisons ici en conseil municipal pour cette année 2021. On démarre par les subventions des activités régulières. Donc on a distingué des activités régulières tout au long de l'année, ce qu'auparavant on appelait subvention de fonctionnement, mais en fait on finance pas le fonctionnement des assos, on fonctionne bien une activité régulière. Et puis ensuite, on verra les activités de type événement ponctuel. Donc, pour ce qui concerne l'USDB, le rugby, ils ont demandé 3 500 euros en 2021 et nous proposons 3 500 euros. Alors, est-ce que je précise à chaque fois, est-ce que ça vous intéresse que je précise les moyens spécifiques mis à disposition de la commune ? Je les ai inventoriés. Donc je peux à chaque fois, si ça vous intéresse, le dire. Ouais. Ok, et donc pour le rugby, sont mis à disposition le terrain, les vestiaires et un clubhouse. Pour Dieulfisky Montagne, une demande de 1500 euros, proposition 1500 euros, et pas de moyens spécifiques à disposition. L'aïkido, une demande de 400 euros, une proposition de 400 euros, mise à disposition du dojo et des vestiaires. Pour le football club, 3 000 euros demandés, 2 700 euros proposés, qui sont en fait la reconduction de ce qui a été donné en 2019 et en 2020. Sont mis à disposition un terrain, des vestiaires, un clubhouse, un gymnase. Le ping-pong club Dieulfitois, ils ont demandé 1 000 euros, il est proposé 1 000 euros, mis à disposition le gymnase, des tables de ping-pong. L'association Véloxyroc VTT demandait 500 euros, proposition 500 euros, mise à disposition, ils ont changé de local, on leur a proposé là le local en sous-sol de la halle à présent. Ils étaient anciennement dans la ancienne cave à son. La gymnastique volontaire demande de 400 euros, proposition 400 euros, mise à disposition de la salle de motricité du gymnase. L'association Karatélo demande de 600 euros, proposition de 300 euros en reconduction des activités en 2019 et 2020. Mise à disposition, le dojo et les vestiaires. L'amicale des donneurs de sang, 250 demandés, 250 proposés. sont mises à disposition la halle et un lieu de stockage rue Malotière. L'amicale laïque, 2 400 euros proposés, demandés, et 2 400 euros proposés. Il leur est mis à disposition des salles au gymnase, des vestiaires et un lieu de stockage rue Malotière. La FNATH, Association pour handicapés, 400 euros demandés, 400 euros proposés. Jeanne Malve, jusqu'à la mort, accompagner la vie, 200 euros demandés, 200 euros proposés. La Glénaud du Jabrou, 200 euros demandés, 200 euros proposés. RIMED, Association d'accompagnement aux victimes, 1 600 euros demandés, 150 euros proposés, en reconduction de la première demande qui avait été formulée en 2020. Donc là, il n'y avait jamais eu de demande antérieure. Il y a effectivement un gros décalage. C'est une association départementale, enfin nationale et départementale, qu'on ne connaît pas beaucoup. Ils nous ont sollicité pour les rencontrer. Et donc, nous les rencontrerons dans la deuxième phase de ce traitement des subventions. La CJD, conciliateur de justice, 100 euros demandés, 100 euros octroyés, mis à disposition de la salle du conseil. L'UNRPA, Ensemble et solidaire, 400 euros demandés, 400 euros proposés, avec mise à disposition du local rue Malotière. Le lien 26, 3000 euros demandés, 2200 euros proposés, avec un reliquat, en fait, il y avait 800 euros qui avaient été, semble-t-il, trop payés sous forme de tablettes l'an dernier, et du coup, en fait, avec le montant des tablettes, on est à hauteur des 3000 euros demandés. L'amicale des anciens combattants de la vallée du Roubion, 500 euros demandés, c'est une première demande, nous leur proposons 80 euros pour les aligner sur l'autre association qui est en dessous, qui est l'ANACR, les anciens combattants de la Drôme, que nous avons régulièrement soutenu à hauteur de 80 euros. Cette année encore, ils nous sollicitent pour 100 euros et on les soutient, on propose 80 euros. L'arbre vert nous sollicite pour 1 500 euros, nous proposons 1 500 euros. L'Office du tourisme de Dieulfi-Bourdeau nous sollicite pour 2 500 euros et nous leur proposons 3 000 euros. C'est une surprise de proposer plus que ce qu'ils demandent, tout simplement parce que l'année dernière, sur le deuxième volet, souvenez-vous, j'en ai parlé, ils nous avaient sollicité et nous avons simplement oublié de leur verser la somme de 500 euros, ce qui explique un rattrapage cette année pour le non-perçu. Et donc, ça fait 3 000 euros. Le planning familial de la Drôme, 1 000 euros demandés, 1 000 euros proposés. L'association familiale, 3 000 euros demandés, 3 000 euros proposés. Ça, ce sont pour les activités régulières sur l'année. On passe aux événements ponctuels. La demande de Éclat, l'association Éclat, 14 500 euros sollicités, 14 500 euros proposés, comme en 2019, comme en 2020, avec mise à disposition de la halle, de divers lieux et de salles. La bizarre nomade, demande de 5 000 euros, proposition de 5 000 euros, avec la mise à disposition du parc de la Baume pour les festivités d'été et du matériel à cette occasion. Sous Chante Mozart, 4 000 euros sollicités, 4 000 euros proposés, avec la mise à disposition du parc de la Baume et du matériel adéquat. Concertina, nouvelle association dieulfitoise, récemment installée à Dieulfi, nouvelle demande également, mais un vaste maillage de réseaux entre associations pour réaliser un festival, un événement sur les enfermements, festival des enfermements, donc le thème est original, on aura l'occasion de le découvrir. Sollicitation pour cet événement de 3 000 euros, proposition de 3 000 euros, en mise à disposition le parc de la Baume, la salle, une salle à l'ancien collège et le matériel adéquat. Dieu le fils pour auto, le radis du Picodon, événement proposé, une demande de 3 050 € et une proposition de 3 050 €. La mise à disposition, c'est la salle de motricité, du matériel et des agents communaux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mine d'art, qui est en fait l'association support au festival Kletzmer, qui n'a pu se tenir l'an dernier pour sa première édition, mais sur lequel nous avions déjà voté 1 200 €. Donc ils nous resollicitent pour les 1 200 € et nous proposons 1 200 €. Avec une mise à disposition, comme l'année dernière, de la halle uniquement pour cette première édition. L'association Passerelle, 500 € demandés, 500 € proposés. PMH, patrimoine, mémoire, histoire, 2 300 sollicités et 2 300 proposés. Peut-être qu'il y aura des annulations d'événements, mais on attend des confirmations, donc on ajustera à ce moment-là. Chemin de pierre, 2 000 € demandés et 2 000 € proposés. Musique d'un siècle à Saint-Pierre, 1 500 € demandés, 1 500 € proposés, avec une mise à disposition de la maison Renaissance, sachant qu'ils utilisent aussi bien sûr Saint-Pierre, mais que ce n'est pas de notre ressort. L'association Il suffirait de presque rien, qui a organisé en 2019 le premier festival Dieu la fête autour de la femme à l'honneur. Ils avaient obtenu 4 000 € à l'époque sur un événement de 3 jours. Réduction cette année à 2 jours avec une sollicitation de 3 000 € et une proposition de notre part de 3 000 €. La même association, Il suffira de presque rien, nous sollicite également pour un stage durant l'été et à raison de 1 500 €. Le problème là, c'est que ça créerait un précédent. Les subventions, il n'y a pas eu de subvention pour stage jusqu'à présent et le groupe de travail a noté que ça poserait un problème d'équité par rapport à d'autres associations qui créent des stages et qui en vivent, qui se rémunèrent sur ça, des professionnels. Donc nous proposons 0 €. Vaincre la mucoviscidose, 800 € demandés, 800 € proposés, avec mise à disposition du gymnase, de matériel, du local de la rue Malotière. Le Picodon chez lui, 1 500 € sollicités, 1 500 € proposés, mise à disposition de matériel et d'un local rue Malotière. Le collectif citoyen, 1 600 € sollicités et proposition de 1 500 € par rapport aux années précédentes, donc où il y avait eu annulation des rencontres citoyennes l'année dernière, mais où on avait délibéré favorablement pour 1 000 €. Et un projet qui s'est tenu de film pédagogique citoyen dans les écoles à raison de 500 €. Donc ça fait la même somme, reconduction de 500 plus 1 000 €, 1 500 €. Les grands anciens du rugby, manifestation annulée. L'association Appel d'air de danse qui souhaitait faire venir Yuval Pic, annulée la prestation. Passion Trail a annulé le trail. Et nous passons aux activités régulières et événements. Donc là, on a des associations qui demandent les deux. Activités régulières et événements ponctuels. C'est le cas de l'UCA, Union des commerçants et artisans, qui nous demande en activités régulières 500 €, notamment pour les foires, les festivités de Noël, etc. Et nous sollicite pour 1 500 € pour soutenir une gratuité réalisée à l'attention des commerçants par rapport à l'adhésion à l'UCA. Nous proposons le soutien de ces activités régulières à hauteur de 500 euros et de cet événement ponctuel de soutien à la gratuité à hauteur de 1500 euros. L'association Mondes et Merveilles, qui sollicite 300 euros pour ses activités régulières, on connaît la cabane à livres et ses racontes-tapis réguliers, nous sollicite également pour des événements ponctuels à hauteur de 1500 euros, qui sont des événements notamment de danse et de spectacle pour jeunes ados et enfants. Et nous souhaitons les suivre à hauteur de 300 euros pour leurs activités régulières et 1500 euros pour ces activités ponctuelles. La Boule des As, qui nous sollicite pour 250 euros pour leurs activités régulières et 250 euros pour leur concours de pétanque, de boules. Et la mise à disposition, c'est le Clos Roger Morin. Le Petit Train du Picodon nous demande 500 euros au titre des activités régulières et 500 euros au titre d'une exposition une exposition à la halle, comment on appelle ça, de train miniature, merci, maquette, modèle réduit. Nous souhaitons les suivre à hauteur de 250 euros sur les activités régulières et 500 euros sur l'événement ponctuel, donc de la manifestation modèle réduit. La mise à disposition, c'est la gare ainsi que du matériel. L'association Pierre Vive, qui nous sollicite pour 500 euros au titre des activités régulières et 1000 euros au titre d'événements ponctuels. Là, il y a un triplement de la demande de subvention. Ce qui est nouveau, en réalité, c'est une nouvelle proposition de visite de la VIAL, qui, je crois, l'année passée s'est fait à titre bénévole par le guide, qui sera cette année rémunéré. Et donc, nous proposons de couper la poire en deux, de suivre à hauteur de 500 euros pour les activités régulières et 500 euros pour les événements ponctuels, en l'occurrence cette visite de la VIAL. Quelques avis particuliers. L'association 1, 2, 3 Soleil, qui est l'association de clowns à l'hôpital, qui est une association qui n'est pas dulfitoise, basée à Cray, qui n'avait jamais sollicité de subvention et qui nous fait une demande libre, donc c'est assez original. On a trouvé que le dossier n'était pas très ciblé sur notre territoire et n'a pas témoigné de premières approches en direction des hôpitaux ici. Et donc, on pense que ce serait une association intéressante, mais à rencontrer, ou qu'il rencontre d'abord l'hôpital ou les hôpitaux. Et pas d'intervention, donc, de notre part pour l'instant. Parlons Crush, une association qui a 2 ans, installée sur Tulfi, qui nous sollicite pour une activité régulière à hauteur de 1000 euros. Mais en l'occurrence, ce serait pour financer du stage, et donc on est sur la même situation que précédemment. Pour il suffira de presque rien, on ne finance pas a priori de stage, ou en tout cas ça créerait un précédent et tous les autres stages pourraient être financés. De plus, pour Parlons Crush, nous souhaiterions, comme c'est un sujet délicat de dialogue mère-fille, on souhaiterait avoir une caution d'une institution reconnue, en l'occurrence le planning familial. L'association sportive du collège Ernest Chalamel, c'est ce qu'on appelle communément l'UNSS. Donc il nous sollicite pour la première fois à hauteur de 450 euros pour des activités régulières. Et le groupe de travail n'a pas trouvé dans le dossier d'activité particulière ou de projet particulier cette année. Donc il s'est dit pourquoi pas une année ultérieure sur un projet spécifique, mais aujourd'hui donc il n'y a pas lieu d'avoir un soutien particulier. À noter que les rencontres sont régulières et bonnes avec l'administration du collège et les enseignants également. La mise à disposition, d'ailleurs, c'est gymnase, plateau sportif, matériel sportif, comme vous le savez. L'association sur les pas des Huguenots. Donc là, il n'y a pas d'intervention par le passé en direction de cette association. Le portage, l'accompagnement est un portage intercommunal. Malgré tout, il y a une demande cette année à hauteur de 3 000 euros pour financer des activités régulières. Nous savons que l'association est en difficulté, mais nous questionnons sur la difficulté financière ou autre accompagnement spécifique souhaité. Et donc, du coup, nous pensons que ce n'est pas suffisant ou opportun de donner uniquement un soutien financier, et nous souhaitons rencontrer les communautés de communes concernées, CCVD, CCDB, pour cela. À noter que nous sommes déjà adhérents chaque année à cette association à hauteur de 410 euros. L'ASDB Handball, donc, qui nous sollicite pour des activités régulières à hauteur de 800 euros et un événement ponctuel, les noctambules, je crois, à hauteur de 1000 euros. Et donc nous n'avons pas pu examiner ce dossier en totalité puisqu'il n'y avait pas de pièces complémentaires. Nous remettrons cette demande ultérieurement, dès lors que nous aurons les pièces complémentaires. Il en est de même pour l'USD Tennis, qui nous demande 1800 euros pour des activités régulières, et où nous n'avons pas les pièces justificatives, les pièces complémentaires. À noter la mise à disposition pour le handball du gymnase des vestiaires et pour le tennis, des cours de tennis et du clubhouse. On en arrive aux associations scolaires, donc, pour lesquelles un montant a été traditionnellement, on pourrait dire, défini à hauteur de 25 euros par élève. On a cherché un petit peu pour savoir si ça faisait lors d'une convention. Le groupe de travail s'était posé la question. Et donc, il n'y a pas de convention spécifique. Les 25 euros sont plutôt un historique.
C'est bien le contrat d'association.
Alors, non, on ne l'a pas retrouvé. Donc, c'est intéressant si quelqu'un peut nous aider à en mettre la main dessus. Ouais. Et les assos nous disent ne pas en avoir vraiment connaissance non plus. Ok, on va continuer à chercher, merci. Et donc, avec ça, le FSE Collège, le foyer socio-éducatif, n'a pas sollicité de demande cette année. Donc, elle ne sera pas suivie. Et l'appel pour l'école Sainte-Marie bénéficierait de 1450 euros avec ses 58 élèves de Dieulfi. L'école primaire Le Ginchet, le CCE, bénéficierait de 2500 euros pour ses 100 élèves. Et la Marelle, l'école maternelle, bénéficierait de 1675 euros pour ses 67 élèves. Et nous en arrivons au grand toto, qui nous donnerait, si vous votez ces propositions, 32 685 euros sur des activités régulières contre 41 700 demandés et 48 100 euros proposés pour des événements ponctuels contre 51 200 demandés. Et ce qui nous donnerait un total de 80 785 euros proposés contre une demande de 92 900 euros. A noter que au budget prévisionnel, lors du dernier conseil municipal, nous avons voté 92 000 euros et qu'il y a deux associations en attente pour des pièces complémentaires. Donc on garde une petite réserve aussi. Voilà, j'en ai fini. Simplement, peut-être pour mémoire, j'avais noté qu'il y a eu 37 associations qui ont répondu sur les saisies numériques, donc par informatique. 20 associations qui ont choisi de reconduire les formules papier pour un nombre total de demandes de 57 associations. Voilà, c'est un peu long, mais c'est conséquent, et au même titre que la densité de notre réseau associatif local. S'il y a des questions.
Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est juste des petites remarques. J'ai été agréablement surprise quand on m'a convié, quand on m'a proposé de participer à cette réunion. Enfin, j'allais pouvoir peut-être amener un petit peu ma petite pierre à ce gros édifice. J'ai trouvé ça intéressant, on a discuté, on a échangé, c'était super bien. Sauf que ça se gâte, parce que pour moi, il y avait des choses qui avaient été notées. Alors effectivement, j'ai entendu que les élus de la majorité prenaient leurs responsabilités, donc pas de soucis. Je parle en mon nom et au nom de mes collègues, on ne va pas s'abstenir ni voter contre. Vous avez pris vos responsabilités, on va aller dans votre sens. Mais malgré tout, il y a des petites choses qui m'embêtent un petit peu. L'association Concertina, moi j'étais restée sur attention, on attend, c'est nouveau, on va voir. Concertina, c'est quand même énorme, quoi, la subvention, elle est énorme. Il y a des petites choses. Mais voilà, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que je continuerai à participer malheureusement à cette commission parce que, voilà, ça, au niveau du fonctionnement, le fonctionnement est le vôtre, pas de souci, mais moi personnellement, je n'y trouve pas ma place. Je ne comprends pas. Vous faites une réunion au niveau des élus, alors vous décidez que c'est les élus de la majorité, pas de souci. Individuellement, on est tous élus. Alors oui, nous, on n'est que 4. Vous êtes 19, donc lors d'un vote, effectivement, il n'y a pas photo. Il y a 19 qui vont dans le sens et 4 qui s'abstiennent, qui votent contre, qui vont avec vous, pas de souci. Mais individuellement, on est tous élus. On est tous les mêmes élus. Donc je ne comprends pas, là je ne comprends pas, pourquoi vous avez fait cette réunion qu'avec des élus de la majorité, alors que certainement Nadia et moi qui avions participé à ce travail-là, on aurait, elle n'est pas forcément révolutionnée, mais on aurait pu aussi donner un avis, une expertise sur les dossiers. C'est le choix que vous avez fait, mais pas de souci. Je dis OK. Merci.
Oui, ça veut dire que globalement, on est quand même complètement d'accord sur la très très grande majorité des propositions qui ont été faites, hein, il n'y a pas de souci. On avait des questionnements, tu as répondu, ta réponse a été très claire. Et par contre, j'aimerais juste apporter un petit plus, ça concerne l'UNSS, pour l'avoir géré en fait, de façon externe à une époque avec le rugby. Bon, l'UNSS est quand même une association hyper importante au sein du collège. Enfin, je ne vais pas te l'apprendre, tu en fais partie. Mais j'ai entendu dire qu'ils n'avaient rien fait. C'est faux. Ils ne se sont pas déplacés parce que les conditions font qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais par contre, les entraînements étaient toujours présents. Ils étaient toujours là. Et les enfants ont continué à s'entraîner. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage de leur priver de quelque chose. Surtout que je tiens à vous rappeler quand même une chose importante. C'est si on a la chance d'avoir le gymnase que l'on a à Dulphy, avec les équipements qui sont à l'intérieur, c'est grâce au collège. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui ai porté le projet. L'agrandissement du gymnase a été subventionné à 80% par rapport au collège. Donc il arrive un moment où il ne faut pas non plus tout oublier. C'est que 450 euros, c'est sur une année complète, et ça va en direction des jeunes. Donc je pense que c'est aussi dans nos missions que d'aider ce genre d'association. Voilà, c'était ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Après, pour le reste, il n'y a aucun souci, pour les sports et tout. Il n'y a aucun problème, le sport et les autres, parce qu'il n'y a pas que le sport qui compte, même si c'est important. Et puis j'aimerais signaler aussi une chose, c'est très bien ce que tu as fait. Hein. C'est, clairement, vous avez fait un super boulot, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Mais il est difficile de mettre après en parallèle certaines choses, c'est-à-dire le rugby. Je parle de rugby, c'est le premier dont on a parlé, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, bref. Forcément, il y a un terrain qui est mis à disposition. Forcément, comment on peut faire? Donc il faudra faire attention dans vos critères de ne pas tenir compte de tout ce genre de choses. Oui, il y a des vestiaires, oui, il y a un clubhouse, oui, il y a un terrain, mais parce que c'est une obligation d'avoir ça. Ce n'est pas le club qui l'a demandé, c'est qu'on a besoin de ça pour fonctionner. Et surtout, on a besoin de tout ça pour s'occuper de tous nos gamins. Moi, je préfère les voir courir autour d'un terrain que de les voir glandouiller, vous m'excuserez le terme, mais soit châtoa, soit se camoufler dans des coins. Voilà, donc il faudra faire attention malgré tout aux, comment dire, aux critères que l'on met en place et ce que l'on apporte à chacune des associations. Voilà. Sinon, bravo pour le boulot que vous avez fait, il est très bien. Bravo.
Merci. Juste ce que tu dis, Sylvain, sur la question de l'équité, en fait, on est bien sur une question d'équité et non pas d'égalité, hein, puisqu'on est à des équipements spécifiques et on voilà, ne peut pas jouer au rugby dans une petite salle. Bon, okay. Donc, par contre, il y a d'autres questions qui sont plus délicates que celles-ci et sur lesquelles il y aura débat. Et moi, je trouve dommage que vous ne fassiez pas partie de ce groupe de travail. Donc, si vous ne donnez pas suite, ce sera dommage parce que votre parole ne sera pas présente et elle est intéressante. Et on en a tiré parti. Voilà, je voulais juste dire encore pour Concertina, ça fait débat autant au groupe de travail qu'entre nous. Et la question, c'était de dire est-ce que on paye un tout petit peu pour voir, parce que c'est une petite association nouvelle. Mais on a le risque finalement d'avoir un événement qui est sous-dimensionné ou annulé ou qui s'en va ailleurs, puisqu'ils ont, ils ont aussi choisi Diolfi et il aurait été possible de faire ce festival ailleurs. Et donc finalement, on a préféré payer pour voir quelque part en se disant, mais essayons de donner ce qui est nécessaire et qui nous montre qu'est-ce que c'est que ce festival et comment il est intéressant. Et puis enfin sur l'UNSS, l'association sportive du collège, c'est évident que ce sont des partenaires et ce sont des gens très importants à soutenir. Ceci dit, je rappelle que c'est la première demande, qu'il n'y a jamais eu de demande, jamais eu de soutien par le passé en termes de subventions, hein, puisqu'il y a eu d'autres formes de soutien. Et comme on n'a pas vu dans le projet de l'association des dépenses spécifiques annoncées, il était difficile de les suivre. Voilà, donc c'est juste une question de cette objectivité. Est-ce que le dossier était mal rempli ou pas avec assez d'attention? Je crois qu'on a l'intention de les rencontrer à ce sujet et de creuser l'affaire.
Voilà. Je voulais rajouter un petit mot sur Concertina. Il se trouve que c'est moi qui les ai reçus la première fois. Après, c'est Bernard Delpal qui les a accompagnés dans la construction de leur projet. C'est un projet extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant. Très étonnant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à réfléchir sur les problèmes d'enfermement. Et ça nous a semblé important, voilà, comme disait Fred, de ne pas tout de suite leur couper les ailes, mais plutôt de leur donner cette chance. Voilà. Après, on sera attentif sur la manière dont ça va se passer, sur le public, voilà, sur comment ça va se dérouler. Voilà.
Et moi, je me permets de prendre la parole. Bonsoir, un peu aux dévotés. Je suis désolée sur un sujet qui ne me concerne pas vraiment, mais j'ai envie de faire une proposition parce que j'entends que ça a été une expérience enrichissante, le fait que vous ayez pu travailler tous ensemble. Et je trouverais vraiment dommage que la porte se ferme comme ça tout d'un coup parce que la réunion n'a pas été organisée en votre présence. Et je trouverais ça triste pour les années suivantes parce que je suis bien certaine que votre participation était importante. Et du coup, je crois qu'on a entendu la remarque. Moi, je voudrais, pour contextualiser, quand même dire qu'on était sur un travail en plénière, donc on parlait de tas d'autres sujets, que ça a été évidemment le sujet principal, mais que... Alors, c'est peut-être en fait une erreur stratégique. Moi, je suis tout à fait prête à le prendre, en tout cas, moi, à titre personnel. Je l'entends bien. Mais voilà, au niveau du contexte, c'était au cours d'une plénière, qui parlait de tas d'autres choses, on se rencontre une fois par semaine, etc. Et Frédéric nous a présenté ce travail comme un travail de partenariat et il nous a vraiment mis en garde sur les écueils, c'est-à-dire qu'on avait sur le tableau vraiment décrit les remarques du groupe de travail. Donc votre parole a été portée par Frédéric et à ce titre, je vous demande publiquement de rester l'année prochaine. Et vous assisterez à la réunion de restitution.
Peut-être qu'il faut voter. Ouais.
Une question. Encore des remarques.
Avant de voter, je m'excuse, mais juste un petit détail. La CRIRAD est comptabilisée dans le total pour 400 euros, alors qu'en fait, ça fera l'objet d'une délibération séparée. Donc il faut retirer 400 euros. Parce que la CRIRAD n'est pas...
Je la vois pas.
Pardon ?
Je la vois pas.
Ben oui, c'est pour ça. Mais le total, il est bien. Le problème, c'est que...
Alors, je suis surpris. Hein.
Je t'ai fait un tableau. Ton tableau, je t'ai mis des petits commentaires dessous. Et dedans, ça y est. Et là, je vois que le chiffre, il est... Dans la délibération... Il est fait état de 400 euros supplémentaires. Bon, voilà, c'est tout. Donc il faut le retirer.
Alors on s'engage à revérifier voilà. Tous les totaux. Ce qu'on vous demande là, c'est de vous prononcer sur chacune des demandes, puisque je vous les ai lues une par une, avec les propositions afférentes. Et donc je vais soumettre cette proposition au vote. Qui est pour le...
Non, dans la mesure où c'est un vote global, il n'y a pas de...
La question était de savoir si des membres de CA, différentes associations, devaient sortir pour Saint-Étienne, etc. Comme c'est un vote global, donc on propose d'aller au vote global. Ok, donc je mets au vote. Qui est pour les propositions qui vous ont été formulées ? Merci. Qui s'abstient ? Merci à l'unanimité.
Merci bien. Ah, un petit mot ? Oui, simplement pour la remarque qui vient d'être faite en ce qui concerne les élus qui pourraient être membres d'associations d'autre part, je pense qu'il était plus judicieux de faire un vote global, mais où chacune des personnes concernées aurait dit « je vote globalement, sauf pour telle ou telle association ».
Moi, je voulais... parler d'une discussion une vraie discussion qu'on a eue autour d'une subvention pour le rallye du Bicodon. Donc je voulais vous dire un petit mot là-dessus, parce que je voulais que publiquement qu'on soit au courant que voilà, cette participation de la commune à à ce rallye poser question. Donc en fait on a pas mal réfléchi et je pense que la question aujourd'hui c'est celle de l'utilisation de l'argent public. Je pense hein, et nous pensons collectivement que nous ne pouvons plus financer des activités clairement fondées sur la consommation de nos ressources qui ne sont pas inépuisables et que les sports mécaniques en font évidemment partie. Je pense que l'écologie, c'est pas que une question de blanc ou noir, de oui ou non. C'est une question de priorité. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Et le sujet n'est... Bon, évidemment, c'est pas de remettre en cause l'imaginaire collectif. Moi, j'ai été moi-même avec mon gamin, mon petit, voir le rallye des Cévennes qui passait dans ma région, et c'était un bon moment entre un père et un fils. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui a compté à un moment. Mais cette priorité, nous avons décidé de la mettre en place, mais d'une manière un petit peu différente, plutôt que de couper les vivres. On a essayé de chercher une solution qui respecte l'équipe qui organise depuis 25 ans ce rallye, l'équipe de bénévoles, l'équipe de passionnés. Et donc on a essayé de trouver une solution qu'on a d'ailleurs discuté avec le président, avec Damien Pellerin, plusieurs fois, pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit acceptable par tout le monde. On a calculé que le rallye représentait pour la commune une dépense globale. Quand on compte tout, hein, quand on compte en particulier les agents et le matériel, une dépense globale de 13 000 euros. Donc, il nous a semblé, quand on compte la subvention, les véhicules, le matériel, les agents. Donc, on a décidé de proposer à Damien Pellevin de réduire dès cette année cette dépense pour la ramener à 9 000. C'est-à-dire qu'on baisse un petit peu l'aide de la commune à l'association, mais sans toucher à la, subvention. Parce que je pense que si on arrêtait la subvention, le rallye s'arrêtait. Alors que là, ça donne une chance, avec l'équipe de bénévoles qui est toujours passionnée, de continuer le rallye. C'est une forme de respect pour l'engagement de toute cette équipe. À titre personnel, moi, depuis toujours, et notamment à la place de cette place de maire que je porte pour 6 ans, je me suis toujours clairement affirmé en faveur des enfants et des jeunes. À l'exemple de notre projet de réflexion de réflexion totale de l'école, c'était évidemment un exemple. Et notre action, c'est pas contre le rallye, ça se place dans un projet d'ensemble, un projet cohérent pour l'avenir de nos enfants, pour un avenir désirable, souriant, mais en même temps responsable. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'attribution d'une aide financière exceptionnelle pour la réalisation d'un film sur l'histoire de Dieulefi entre 1939 et 1945 et sur la résistance civile. C'est un film qui a été conçu, construit, écrit, réalisé par Claire Joachim et qui fait la part importante, qui donne une part importante aux personnes de l'ombre, sans qui toute cette histoire n'aurait pas pu se passer. On parle souvent des grandes figures de cette période, et il y a en fait toute une partie de la population qui était cachée, enfin, dans l'ombre. Et donc, Claire Joachim a désiré les mettre en valeur par des interviews, par des enquêtes, dans ce film. Et donc, elle nous a demandé de... C'est un budget quand même de 30 000 euros qu'elle va essayer de faire financer par un certain nombre de financeurs, départements, régions, États. Et nous a demandé d'être les premiers financeurs, et donc nous a demandé 1 000 euros pour la mise en route de ce film. Tout a été tourné et il reste à mettre en place le film. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce projet et sur cette subvention de 1 000 euros. Ouais.
Pour la subvention de 1 000 euros, évidemment, il n'y a aucune espèce de question qui se pose. Mais la question, je vais encore la poser à Frédéric Stenn. Je fais aussi partie de la commission culture depuis le mois de janvier. Il n'y a pas eu de réunion de cette commission culture. Entre le 23 septembre et le 11 janvier, on a eu 7 réunions qui m'ont paru toutes extrêmement intéressantes, avec Annie, avec Vanessa, avec Nicole Marcel et avec toi, Frédéric. Et pourquoi depuis le 11 janvier il ne se passe rien? Et pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles réunions là-dessus? Je ne comprends pas. D'autant plus que, par exemple, pour ce film dont vous parlez maintenant, Claire Joachimovitch, donc on la connaît très bien depuis plusieurs années, parce que ça fait plusieurs années qu'elle essaye de monter son projet, on l'a rencontrée à l'occasion avec PMH, et donc on aurait très bien pu en discuter aussi. Voilà. Je suis désolée, ça retombe sur toi, mais voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vous demanderai qui est-ce qui est pour cette aide, C'était un peu exceptionnel. Merci. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
Juste, Christian, si tu me permets, oui. Je ne vais pas répondre à tout non plus, mais en même temps, juste pour dire que s'il n'y a pas eu de réunion depuis janvier, c'est qu'il y en a eu d'autres sur toutes les associations et que je ne suis pas... voilà, je ne peux pas faire plus. On est à fond. Voilà, tout simplement. Et sinon, sur la question de Claire Joachim, elle faisait partie du premier tableau. Donc en fait, dans le tableau qui était présenté au groupe la première fois, elle en faisait partie. C'est ça, on en avait parlé. Ok.
Oui, je voudrais faire une petite remarque en ce qui concerne les réunions. Il y a quand même un certain nombre de règles qui nous sont imposées par la préfecture, le ministère de l'Intérieur, et assez souvent, personnellement, en tant qu'adjoint à la santé, bon, je n'ai pas cherché à trop savoir quel était le nombre dans certaines réunions, mais il y a quand même à respecter pour ne pas aller trop au-delà. Et actuellement, par exemple, toute réunion n'est pas autorisée dans la mesure où ce n'est pas une réunion délibérative.
Oui, là, je suis désolé, ça me fait réagir parce que il y avait mercredi soir en salle du conseil une réunion animée, je pense, par Geneviève et d'autres. Je ne pense pas que c'était délibératif. Ils étaient sur un groupe de travail et je pense sincèrement que la distanciation n'était pas respectée. Alors, je peux entendre ça un petit peu, mais si on veut vraiment travailler, il ne faut pas travailler à deux vitesses. C'est soit c'est tout.
C'est pas si facile que ça. C'est pas noir.
C'est la boue. C'était l'interco.
Oui, c'était l'interco.
Les élus.
On avance. Donc le point suivant concerne les droits de place liés à l'occupation du domaine public. On va essayer de trouver un micro pour Vanessa. Il y en a deux.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez, ça fonctionne? Alors, moi, je mets ce soir, en fait, au vote une délibération qui est donc le choix fait par la commune d'exonérer les commerçants et artisans qui ont sur la commune de Lieufy un droit de place, puisque c'est un signe de soutien que la commune veut envoyer à tous les commerçants qui sont aujourd'hui, depuis quelque temps, vivent des difficultés suite à la crise sanitaire. Travailler est difficile en ce moment, et donc c'est un signe de soutien, car tous ces petits commerçants sont le cœur d'un village et que c'est de notre devoir de maintenir leur existence dans leur quotidien et dans cette commune. Donc je mets aujourd'hui au vote la délibération de l'exonération exceptionnelle des droits de place pour l'année 2021. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, pas de questions. Alors on peut passer au vote. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est pour? Je vous remercie.
Merci. Nous passons au point suivant qui concerne la limitation à 30 km/h de la rue des Raymonds et de la rue Gabriel Péry.
Oui. Cette limitation est aussi le fruit d'un contexte, puisqu'on a été sollicité par de nombreux habitants qui ont sonné l'alerte assez tôt après notre élection, et puis ça a perduré, ils ont été de plus en plus nombreux, donc soit des habitants des rues concernées, c'est-à-dire la rue des Raymonds, la rue Gabriel Péry, mais aussi simplement des usagers, pour nous dire qu'à Lieufy, plusieurs rues et itinéraires étaient assez anxiogènes, insécurisantes, et aussi inadapté à la fois aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux enfants, qui circulent de façon non sécure. Du coup, l'idée pour nous, c'était d'apporter une réponse efficace à cette demande des habitants, une demande tout à fait légitime, qui veulent bénéficier d'une meilleure sécurisation. Mais pour ce faire, il faudrait proposer un plan de circulation cohérent et global, parce que c'est forcément des réponses qui sont multiples et qui vont prendre du temps. Sauf que passer trop de temps, c'est aussi ne pas apporter de réponse aux habitants qui sont un peu pressés de voir les choses s'arranger. On a donc décidé de proposer une première phase, une phase plus facile à mettre en œuvre, et qui sera donc de limiter la vitesse de circulation automobile sur toute la rue des Raymonds, donc on partirait des Moulinages, et on suit le chemin, en fait, comme si on voulait aller à l'école ou au collège, puisque c'est un peu ça l'idée, c'est de cibler en priorité les accès aux écoles, aux collèges et aux plateaux sportifs. On prend toute la rue Gabriel Péri et on arrive jusqu'au collège, et toute cette portion-là sera limitée à 30. Donc l'idée, vous le comprenez bien, c'est de redonner de l'autonomie à nos enfants, de favoriser leur déplacement à pied, à trottinette, à vélo, mais aussi de favoriser l'activité physique pour eux, d'essayer de générer un cercle vertueux où les gens auront de moins en moins envie de prendre leur voiture. Voilà, plutôt que de vous lire la délibération, je suis prête à répondre à vos questions. À gauche.
J'ai juste une question, la rue des Raymonds, elle ne commence pas au Moulinage ?
Non ? Non, mais on commencerait au Moulinage parce que c'est là que juste après le rétrécissement, et puis quand on descend, on monte, enfin, les Moulinages, il va y avoir 49 logements. Quand on descend de la DHLM, il y a là un afflux de population, et c'est là qu'il commence. Donc c'est de là qu'on démarre sur le 30.
Carrefour des Ubacs. Oui, ma question rejoint un peu la question précédente. Je voulais savoir très exactement où ça démarrait. Parce que les Moulinages, si c'est au niveau de la sortie des Moulinages, c'est peut-être un peu tardif. Je pense qu'il faudrait que ça démarre plus au niveau du lavoir que du Moulinage.
On en a parlé encore ce matin. Effectivement, ça part le 30 démarrerait au niveau du carrefour de la route des Hauts-Ubacs, donc juste avant le rétrécissement.
Mais elle est déjà à 30 en fait,
c'est
sur le long des rétrécissements.
C'est pour ça qu'on n'a pas parlé du 30 là.
Si je pose la question, c'est qu'il y a la sortie. C'est quand même qu'il y a la sortie des HLM, hein, disons, et où il y a un panneau, une glace qui permet de voir s'il arrive un véhicule qui vient du côté de Nyons. Et là, cet endroit, c'est assez difficultueux parce que la glace donne l'impression que le véhicule est beaucoup plus loin. Et donc là, je pense qu'il faudrait bien un certain métrage avant, ça soit déjà à 30.
C'est ça, ça commence au rétrécissement, au début du rétrécissement quand on arrive de Nyons, mais là c'est déjà à 30, donc on prolonge, parce que c'est clair. On prolonge jusqu'à la maison de la céramique, puis on continue notre chemin comme si on allait au collège, et on poursuit jusqu'au collège.
C'est clair.
Nadia.
Par contre, après le collège, quand on prend vers la déviation, là, c'est une route départementale. Et on avait à un moment soulevé l'idée qu'on pouvait diminuer la vitesse sur cette voie départementale parce que les gens qui sortent du collège, ils vont aussi de l'autre côté. Et moi, j'habite sur cette portion, je vois tous les jours des gamins et des petits-enfants de Geneviève, par exemple, qui sont très raisonnables, mais il y a quand même beaucoup de voitures qui vont très vite, justement, après qu'elles aient été coincées un peu par les 30 km dans Dieu. Là, c'est limité normalement à 70,
ouais.
C'est ça. Là, ça serait 50, ça serait pas mal. Ou alors, est-ce qu'il peut y avoir une... comment ça s'appelle,
alors les dodans, en kikine les riverains, ça se fait plus du tout, ça.
sinon on va se faire vraiment tous taper sur les doigts.
Ce que disait Magali quand même, c'est que ça c'est la première phase, la première étape d'un plan de circulation qui sera travaillé de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus cohérente, mais qu'il est important de répondre à la demande rapidement d'une certaine partie de la population, puisqu'on a eu quand même déjà deux, genre pétitions on va dire, mais deux collectifs de citoyens, d'habitants qui nous ont contactés pour ralentir et sur les Raymond et sur la rue Gabriel-Péri. Donc on sait bien que c'est le parcours des enfants pour aller aux écoles, et que c'était par là qu'il fallait commencer, mais bien sûr qu'après les choses vont être réfléchies de façon plus large.
Voilà, l'idée, c'est un peu de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on change de priorité à la Diolfi, en tout cas dans son centre-ville, dans son périmètre de centre-bourg. C'est plus la voiture qui est prioritaire, c'est le piéton et le vélo. Mais voilà, notre culture latine va en prendre un coup, donc on va y aller tranquille. Qu'on passe au vote.
Juste une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens, on va dire, physiques,
j'allais y venir,
mis en place ou pas pour...
On est super connectés, donc avant qu'on passe au vote, simplement pour vous dire, des dispositifs pédagogiques seront mis en place. Bravo. Donc à la fois d'apaisement, donc par évidemment des radars qui indiquent à combien on va. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Un contrôle aussi renforcé, on va prévenir les gendarmes qu'ils soient présents un peu plus souvent, alors pour faire de la prévention, hein, et peut-être de la prévention pour quelques mois. Et puis ensuite, on verbalise, messieurs, dames. Voilà, et puis une signalétique évidemment sera mise en place pour prévenir de ces nouvelles mesures. Est-ce que je vous propose de passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup, ça m'était très cher.
Je vais passer la parole pour le point numéro 7 à Laurence Girard, qui a trouvé un micro. Qui va nous expliquer la convention proposée avec la CRIRAD.
Oui, bonsoir à tous. Donc la CRIRAD, donc, est la commission de recherche d'information indépendante sur la radioactivité, nous demande chaque année une participation, puisqu'il y a plusieurs balises tout le long du couloir, enfin du Rhône, placées pas loin des centrales, et il y en a une qui nous concerne particulièrement puisqu'elle est basée à Montélimar, chez les pompiers, et cette convention en fait explique en quoi ils s'engagent, notamment la diffusion d'informations qui sont disponibles en ligne en permanence, hein, sur un site que je peux vous donner si ça vous intéresse, qui nous envoie tous les trimestres un rapport de toutes leurs analyses qui sont faites à la fois sur des priorités considérées par le gouvernement, mais ils vont aussi plus loin dans, par exemple, la libération de particules qui sont pas considérées comme dangereuses ponctuellement, mais qui, à force d'être accumulées, finalement, ont des impacts. Donc ils font un travail très pointu, c'est un gros dossier. D'ailleurs, pour l'instant, c'est souvent à moi que ça aboutit. Je le fais parfois passer à Jacques, adjoint à la santé. Mais si ça intéresse, surtout dites-le moi, parce que voilà, au bout d'un trimestre, je ne sais pas à qui l'adresser. Donc s'il y a des personnes intéressées pour voir ces données, voilà, c'est très riche. C'est un document, c'est pas un document numérique, mais c'est à voir, pourquoi pas. Ouais. Leur demander, ça c'est une bonne remarque que je peux me noter. Ils ont un coût de fonctionnement annuel pour cette balise de 37 710 euros, puisque c'est du personnel, c'est du matériel très spécifique qu'il faut renouveler, maintenir en parfait état de fonctionnement évidemment. Et donc c'est un prorata sur les communes que ça concerne, et donc nous sommes concernés à hauteur de 650 euros. Voilà, annuellement. Et donc là, l'idée, c'est de conventionner sur 3 ans pour leur garantir une certaine sécurité de l'emploi, de leur fonctionnement, voilà. Et être aussi alerté au moindre dérèglement qui a un niveau suffisant pour qu'on mette en place des mesures de sécurité. Donc, outre l'information régulière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, j'ai une question. Habituellement, je croyais qu'on était lié par une convention sur 4 ou 5 ans. Est-ce que c'est un renouvellement de la convention? Je n'ai pas vu dans la présentation un terme pour cette convention? Est-ce qu'elle est renouvelable chaque année comme un accord ou pas? Voilà, une convention, en principe, il y a une date de début, de fin ou de renouvellement.
Alors, pour moi, c'est une convention d'engagement sur 3 ans. Et il y a eu un arrêt, la municipalité précédente a arrêté la convention à un moment. Donc, on va dire, c'est à la fois une reconduction, mais c'est une nouvelle convention qui est mise en place, vu qu'il y a eu une rupture. Et l'année dernière, on avait juste versé, comme on n'avait pas eu le temps de mettre en place cette convention, on avait juste versé 300 euros de mémoire pour participer quand même à leur travail. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Jacques?
Donc c'est une convention triennale.
Triennale, voilà, c'est ça. Sera
éventuellement renouvelée par la suite.
Ah bien sûr, ben, je pense qu'il compte énormément là-dessus.
Ouais. C'était une petite précision, mais
oui.
Je vais vite.
D'accord.
D'autres questions? Pas de question, mais moi ce qui me gêne, c'est le montant quand même. C'est quand même relativement important. 650 euros, c'est pas rien quand on sait. On nous apporte des informations, certes, mais ça correspond quand même à 6% de leur budget. Dieulefit, c'est 3 300 habitants. Quand on sait que Montélimar, le bassin de vie, c'est 67 000 habitants. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est faire le calcul en équivalent habitant. Et à mon avis, on ne sera pas à 650 euros, bien en deçà. Après, ils demandent 650 euros. Ils sont comme tout le monde, hein. On demande 650 euros en espérant les avoir, mais c'est pas une obligation de leur donner. C'est mon avis. Voilà. Donc moi, je trouve que 650 euros, très clairement, c'est beaucoup. Voilà. Je préfère donner 300 euros de plus à une association locale et leur donner 300. Mais c'est mon avis.
On peut faire comme pour les associations, c'est-à-dire reconduire, on va dire, ce qui est demandé, puis étudier, en effet, faire une demande par rapport au prorata habitant, etc., pour l'année prochaine.
650 euros sur 37 000. 650 euros sur 37 000, ça fait pas 7%, tu me dis ?
5,8%.
Ça fait 2%, enfin, de tête.
Toujours est-il que, pour moi, ce choix, c'est aussi de marquer nos fondamentaux, notre éthique, en fait, parce que finalement, une centrale nucléaire, ça a une portée très largement jusqu'à nous, au même titre que Montélimar, donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant comme choix, un choix politique, éthique.
1,7%.
Même, très clairement, moi, je trouve que c'est beaucoup trop.
Ok.
Ce que j'ai entendu tout à l'heure, Alain Chauvet disait tout à l'heure 400 euros, déjà ça m'a enchaîné. Ouais. Là vous aviez enlevé 400 euros, là on parle de 650. Voilà, c'est. Bah, 300, ça m'irait bien.
Moi j'ai versé effectivement en 2020.
Micro.
On n'entend pas.
Voilà. Je viens de vérifier, en 2020, on avait versé effectivement 300 euros, comme l'a dit Laurence. C'est sûr que ce serait plus raisonnable de rester là. Hein. Le calcul en raison du nombre de personnes concernées est tout à fait réaliste. Et c'est une négociation. Il faut y aller. Quoi. Il faut poser. Mais bon, c'est pour mon opinion personnelle.
Ok.
C'est bon, notre remarque, ou sinon on passe au vote.
On vote combien?
Eh bien, on vote pour ce qui est proposé cette année, c'est-à-dire 650 euros. Donc, qui est salué contre? 4 personnes ou 5? J'ai pas vu Alain, j'ai vu un bras, non? Non. Qui s'abstient? Personne. Donc, qui est pour?
Je m'abstiens.
Merci. Nous allons parler foncier maintenant avec Marc. Alors, attends, juste avant de te donner la parole, la technique me signale que le micro ne marche pas très bien et que donc le
notre conseil est enregistré et sera donc écoutable sur le site, mais que là, ça a l'air moyen. Plus que moyen, c'est ça. Marc, tu parles fort et clair.
Oui, je ne sais pas si on m'entend.
Non. Enfin, nous, on entend.
Oui, donc je vais vous exposer une délibération au sujet d'une convention que la commune va passer avec EPORA, qui est un établissement public foncier d'État. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas EPORA, son rôle est de, un petit peu comme les SAFER, de permettre de faire des acquisitions, des réalisations en matière foncière. Lorsque les communes n'en ont pas la possibilité financièrement de lancer des projets et donc pourra les finances et puis et nous permet nous de pouvoir avoir une action et d'avoir une action que, comme chacun sait ici, c'est assez compliqué puisque le foncier est assez cher, donc on utilise EPORA comme un outil d'action foncière. Voilà, alors la présente convention a pour but de définir les obligations respectives. EPORA exerce ainsi une mission générale d'études préalables, de veille foncière, en partenariat avec la commune. La convention permet de préciser le périmètre opérationnel d'initiative publique, la définition du projet, ainsi que ses conditions de faisabilité, de financement et de mise en œuvre. En sa qualité d'opérateur foncier, EPORA coopère avec la commune pour la définition du projet et la stratégie foncière qui en découle, sur le périmètre identifié comme présentant un intérêt stratégique de la commune et déterminé dans la convention. EPORA assure une veille foncière et peut, le cas échéant, acquérir des biens immobiliers à la demande de la commune. Il convient de préciser que la commune reste garante du rachat pour toute opération que pourrait être engagée dans le cadre de cette convention. EPORA s'engage à recéder les biens immobiliers acquis à la collectivité conformément au déroulement du projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, alors des remarques. Tout d'abord, la dernière phrase, je ne la comprends pas, enfin du moins elle n'est pas. Quand on lit la convention, a priori, il y a la possibilité que EPORA vende à un tiers. La collectivité, la commune, si on lit la convention, elle peut vendre un tiers. Si par exemple la collectivité ne s'engage pas, et je pense que M. le maire l'avait précisé lors de la réunion de préparation, ça peut être vendu un tiers.
Oui.
D'accord ?
Oui. Avec l'accord de la commune.
Avec l'accord de la commune.
Et surtout si éventuellement la commune est engagée au rachat du bien immobilier par la convention. Si la commune faisait des défaillances, effectivement, dans ce cas-là, elle pourra se substituer, récupérer le bien de droit et pourrait effectivement le vendre.
Ah, d'accord.
En cas donc de défaillance de la commune, qui dispose de 4 ans pour réaliser le projet et pour le mettre en service et ensuite pour le racheter à EPORA.
D'accord, on est bien d'accord. Donc justement, lors de la réunion préparatoire qu'on a eue mercredi avec Monsieur le maire, Frédéric Sten et Alain Chauville, Monsieur le maire m'a présenté ce projet de convention. Il a bien expliqué que les outils EPORA peuvent apporter une analyse, voire une solution concernant, parce qu'on parle bien de cette convention, concernant les parcelles de la Sablière. Nous nous étonnons de cette cible clairement identifiée dans la convention. Ces parcelles, pendant la dernière mandature, ont fait l'objet d'un projet foncier porté en partie par la municipalité. Ce projet n'a pas vu le jour, me semble-t-il, puisque la structure Ecoravi a fait valoir ses droits et cassé le projet en faisant acter la décision finale par Monsieur le maire. Rappelons que cette décision a été respectée et qu'aucune pétition ou grève de la faim ont vu le jour. En s'informant sur le site EPORA, nous constatons du potentiel des missions attribuées à cet organisme et ainsi épauler les collectivités à définir une stratégie d'optimisation du foncier urbain. Certes, EPORA peut analyser, conseiller et acquérir, mais également exproprier. Nous espérons que la signature permettra une réelle réflexion globale sur le périmètre clairement défini en annexe de la Convention, intégrant le pôle scolaire, les locaux du KM, les 12% de logements inoccupés du centre-bourg, et peut-être plus. Pour terminer, à ce jour, nous craignons que cet outil ne soit pas utilisé dans un but d'intérêt général. Nous serons attentifs à ce que vous ne fassiez pas l'erreur d'un conflit d'intérêts.
Alors, il y a deux... J'ai pris le micro rapidement. Il y a deux niveaux à cette convention. En fait, cette convention a été proposée par EPORA à l'occasion d'une discussion qu'on a eue avec le directeur d'EPORA, en compagnie d'ailleurs de Marc, de Magali, de quelques autres, sur cette situation assez bloquée pour l'instant sur la Sablière. Et donc c'est en parlant de ce projet qu'on a dit, mais nous, éventuellement, si le propriétaire, si Valride n'a plus de droit sur ce terrain, ça pourrait nous intéresser, nous, de l'acquérir, pas pour construire, mais pour reprendre la main sur un projet qui pourrait satisfaire l'intérêt général. Mais cette convention ne concerne pas que ce projet. Cette convention concerne la surface de la commune, la surface, je dirais, la surface bâtie, hein, puisque ça va effectivement, ça comprend l'école, ça comprend tout le coin du collège, de l'ancien collège. Enfin bon, vous avez la carte dans le projet de convention. Je ne sais pas si on l'a sur le... On n'a pas la carte, hein, mais c'est toute la partie bâtie de Dieulefit, donc... ça peut concerner d'autres choses que ce terrain de la Sablière. Après, sur ce terrain de la Sablière, l'interprétation qu'ils ont fait sur le passé du projet de construction est un petit peu orientée, je trouve. Le projet de Valrime sur la Sablière a été refusé par la DDT, je te rappelle, a été accepté par la maire précédente, et a été retoqué par le préfet qui a dit que ce projet de permis de construire n'est pas légal. Donc il n'y a rien à voir avec les intérêts de quelconque voisin, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les problèmes d'accès, ce qui est un peu particulier parce qu'il y a un vrai problème d'accès sur ce terrain, on est d'accord. Mais c'est pas cette raison qui a fait que la DDD a dit ce projet n'est pas valable. Voilà. Donc EPORA est un moyen, enfin, pour nous, la chose importante, c'est que c'est un moyen extrêmement important, c'est un vrai outil qui peut nous permettre, si ce terrain de la Sablière, voilà la surface concernée, donc c'est une grande partie de la... Vous voyez l'école maternelle, vous voyez l'ancien Club Med, ils appellent ça, ça s'appelle Rejaubert, mais c'est encore arrivé là-bas. Donc c'est vraiment toute la partie centrale de Dieulefit. Et tout projet foncier peut permettre à la commune de faire intervenir, soit en achetant, en nous aidant à acheter, soit on s'appelle, pas expropriant, mais préemptant en cas de vente.
Oui, c'est-à-dire qu'EPORA, par les délégations, dispose des pouvoirs de la commune. C'est-à-dire que si, effectivement, il faut, par exemple, préempter sur un site, un bâtiment ou un terrain, que la commune a la possibilité de préempter sur ce terrain, EPORA le fera par délégation, pourra acheter pour nous, et ensuite nous mènerons à bien le projet en question, si par exemple on souhaite préempter sur un terrain qui permettrait d'agrandir le col. C'est une idée que je lance comme ça, parce que justement ça pas, c'est pas une réalité, mais pour dire voilà, c'est pour exprimer cette possibilité que nous donne EPORA comme intervenant foncier, comme outil très très puissant de pouvoir adieu le FI, lutter contre la spéculation, de pouvoir éventuellement que la commune puisse imposer des directions en aménagement et non pas être à la merci de la volonté d'un promoteur qui aurait, lui, l'argent pour acheter le terrain et faire ce qu'il veut. Voilà, on a éventuellement donc cette possibilité-là et nous, on travaillera sur un cahier des charges et bien évidemment, que ça ne sera pas la commune qui financera ces logements. Nous travaillerons avec un institutionnel du logement qui pourra être DAH, Valérine, pourquoi pas, etc.
Voilà. Je rajouterai qu'il y aura une grosse force de frappe pour les conseils. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on achète un terrain et qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on va faire, on a 4 ans pour juridiquement, urbanistiquement, réfléchir avec Epora. Epora peut vraiment nous aider à concevoir quelque chose.
Je vous invite à lire l'article 2 de cette convention. Là, si c'est pas clair, un terrain d'un hectare prépoche sur le centre-ville, sur un terrain en pente en zone AU avec OAP au pied des falaises boisées, le terrain d'à côté aussi en zone AU est occupé par un projet d'habitat participatif Ecoravi. La commune souhaiterait réaliser des logements adaptés aux personnes âgées, du logement locatif, social ou encore d'artisanat, mais les contours de l'opération restent à définir. Je dis juste qu'on restera attentif. Je n'ai pas dit que j'étais contre, mais attentif.
Article 6, en application de la convention, sur proposition de la commune, Epora peut être conduit à acquérir des biens immobiliers à la demande de la collectivité sur la totalité de la zone. C'est pas du tout limitatif à ça. C'est à l'occasion de la réflexion qu'on a eue avec ce directeur d'Epora qu'ils ont monté cette convention, mais c'est pas que pour ça.
Oui, pour préciser d'ailleurs que c'est pas à cette occasion, précisément sur ces terrains de la Savellière, qu'on a eu contact avec Epora, puisque j'avais déjà eu auparavant contact avec Epora pour un travail de recherche de gisements fonciers pour la CCDB. Voilà, donc c'est vraiment un organisme qui a des missions très variées, qui n'a pas que des missions d'acquisition foncière. Évidemment, il y a aussi des missions de repérage, d'études au niveau du foncier. Voilà, c'était pas ciblé, c'est pas la Sablière, parce que la Sablière est à côté des Coravi. D'ailleurs, les habitants ou les élus faisant partie des Coravi n'ont pas du tout participé à ce travail avec Epora.
Je voudrais juste rajouter une bricole, si vous permettez, c'est que je pense quand même qu'on est tous élus à Diolchi, on connaît un petit peu notre territoire. J'ai du mal à comprendre que l'on puisse faire appel une nouvelle fois à une structure pour nous dire ce qu'on a à faire sur notre territoire. Il y a des moments où on le connaît. C'est à vous aussi, et à nous, d'avoir des projets. Qu'est-ce qu'on attend d'une structure comme Epora ? Alors j'ai bien compris, ils ont une puissance une force exceptionnelle, etc. Moi, le mot qui m'inquiète, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'expropriation. Ça, très clairement, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ils ont cette possibilité. Moi, je ne veux pas en arriver là. Je veux que nous et vous soyez capables de mettre des projets en place. En plus, on a un PLU, je le dis. On a la chance de pouvoir travailler avec ça, etc. À vous de mettre des projets en place et d'acquérir ce dont on a besoin. Mais arrêtez d'aller chercher des structures à droite, à gauche, etc., etc. J'ai du mal. Et puis, je me souviens aussi de ce que tu as dit, Magali. Ça tombe bien, tu es quand même responsable de l'urbanisme. C'est pas méchant. Hein. Tu nous as dit le rôle d'élu, c'est professionnel.
C'est jamais méchant avec toi.
Pardon ?
C'est jamais méchant avec toi.
Non. Tu as dit le poste d'élu se professionnalise. À vous de le montrer. Allez dans ce sens, cherchez des solutions. Mais arrêtez toujours aller chercher avec d'autres, avec des structures, des tiers sur des structures. Strictement, ça me gêne. Voilà.
Mais c'est pas du tout, il n'y a pas l'ombre d'une prise de pouvoir d'Epora sur le devenir de Diolchi. C'est un outil. Epora sera à nos ordres. Et ce mot expropriation, bien évidemment, est dans la convention parce que c'est une convention qui est générique, mais il est absolument hors de question pour nous, pour un projet, d'exproprier qui que ce soit.
J'espère bien, mais en fait, je me tiens à ce qui est noté quand même. Ce qu'a dit Patrice, je veux dire, il ne l'a pas inventé non plus. C'est, voilà,
si ça devait arriver pour mener à bien un projet d'intérêt public, l'expropriation est quelque chose, qui peut être éventuellement pratiqué. On ne serait pas les premiers à le faire. Mais si EPORA venait à le faire, ça serait et bien évidemment sur ordre de la commune. Évidemment. Parce que, eh bien, tu as raison, nous connaissons notre territoire et nous connaissons les besoins et la pertinence des projets à mener.
C'est la raison pour laquelle on fait appel à EPORA, pour pouvoir gagner du temps, parce qu'on ne peut pas mener tous les projets de front. Il y a une urgence avec la sablière, qu'elle ne soit pas vendue à un promoteur qui mettrait son propre cahier des charges dessus et qui pourrait proposer une construction qui ne ferait pas sens pour nous. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment qu'il y ait un cahier des charges qu'on s'approprie, qu'on peut même s'approprier tous ensemble, mais qui soit cohérent pour notre projet. Et EPORA nous permet de gagner du temps. Et par ailleurs, si on fait appel à toutes ces structures qui sont composées d'experts, c'est parce que quand bien même on se professionnalise, on ne sait pas tout faire. Il y a des gens qui sont des experts dans des domaines. Et c'est vraiment bien de pouvoir faire appel à eux, parce que rien de tel que les partenariats pour avancer mieux.
On peut procéder au vote ? Y a-t-il encore des questions ? Bien. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci.
Merci Marc. Quelques décisions que j'ai prises en application de l'article L2122-2 du CGCT. Je ne les ai pas par cœur, donc je les attends sur le tableau. Tac, 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 tac.
Décision.
Alors, suite à la consultation, oui, on s'est penché sur les photocopieuses. Photocopieuse qui nous coûtait 1908 euros TTC par trimestre, et en discutant on a ramené ce chiffre c'est ce chiffre là qui va être le bon. On économise de l'ordre de 400 euros par mois, par trimestre, c'est ça, hein. On a rediscuté en fait le tarif des photocopieurs, et on arrive à un chiffre qui nous fait économiser 400 euros par trimestre. Et donc j'ai signé ça. C'est la décision suivante. Oui, c'est pour payer la CRAD. La fourniture de deux pergolas pour la piscine que nous avons décidé au dernier conseil municipal dans le budget. Donc, on achète ces deux pergolas pour 1827 euros. Produit de traitement d'eau de la piscine pour 1443 euros hors taxe. La tondeuse autoportée de marque Kubota, une très belle tondeuse. Non, c'est beaucoup mieux qu'Izeki. Et ça va plus vite et ça coûte mieux. Et donc c'est quand même 10 494 euros hors taxe. Ça aussi, on l'a budgétisé au dernier conseil municipal. Je crois que les services techniques sont très contents, parce que c'était vraiment une très très vieille tondeuse. Izeki, merci. L'achat d'une pompe avec une lance haute pression pour installer sur la balayeuse pour la voirie pour 2 526,17 € hors taxe. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai pas acheté un peu du bois ou du... Non, ça c'est la peinture routière. 1 340 € hors taxe à la société AR de Nanterre. Ah, voilà. Pour 1 866,67 €, une dernière petite... commande de 8 tonnes de granulés de bois pour la chaudière, qu'on est chaud, même au mois de mai. Voilà. C'était une information. Vous avez des questions sur ces achats ? J'ai essayé d'être raisonnable. J'avais un petit mot sur les questions diverses, un petit mot sur la cérémonie du 8 mai. On aimerait bien faire une cérémonie avec 150 personnes, avec la remise de médailles de Roger Cavet, avec un grand apéro après devant la gare. Mais c'est encore un petit peu trop tôt. Donc la cérémonie du 8 mai est réglementairement limitée à une dizaine de personnes. Donc nous avons, conjointement avec Patrice, nous avons essayé d'organiser au plus juste les invités. Donc nous vous proposons de venir, mais pas trop nombreux, parce que sinon ça va, ça, ou alors vous tenir très loin. La cérémonie aura lieu à 10h30 et avec un seul porte-drapeau, avec on n'invite même pas les représentants des anciens combattants, pour vous dire où on en est. La préfecture nous dit non, les anciens combattants, ils restent chez eux. Voilà, donc c'est un petit peu, tout ça est un peu tristou, mais on est obligé de respecter les règles. Bon, il y aura quand même une petite gerbe et il y a quelques drapeaux. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ?
Non, ça va.
Voilà. À la demande d'un certain nombre d'entre vous, maintenant qu'on commence à être un petit peu habitué de la régularité de nos conseils municipaux, je voulais vous proposer de faire un conseil municipal toutes les 5 semaines. Voilà. Pour que les choses soient relativement calé, qu'il n'y ait pas d'hésitation sur la date, d'hésitation sur mais je croyais l'avoir envoyé, c'est pas arrivé, enfin voilà. Donc, prochain conseil municipal le 7 juin et celui d'après le 12 juillet. Ensuite, on verra pour le mois d'août. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... tu veux dire un mot ?
Oui, je voudrais dire un mot, comme d'habitude, sur la vaccination. Je rappelle que nous avons ouvert ce que l'ARS appelle une équipe mobile, c'est-à-dire tout simplement que nous dépendons du centre de vaccination de Montélimar. Nous ne sommes pas en nous-mêmes centre de vaccination à Diolfi. L'objectif de cette opération, c'était de vacciner les plus de 60, les 70 ans et plus qui ont des difficultés à se rendre à Montélimar. Ça a démarré le 9 avril et en 3 semaines, nous avons vacciné plus de 500 personnes, essentiellement des Diolfitois ou des gens des communes environnantes. Demain démarre la deuxième phase, c'est-à-dire la seconde injection. Mais cependant, des possibilités... Alors je rappelle que c'est le Pfizer qui est à notre disposition. Des possibilités restent pour la première dose. Et jusqu'au 18 mai, les personnes qui auront ces premières doses ont l'assurance d'avoir leur deuxième dose à Diolfi. Pourquoi je dis jusqu'au 18 mai ? Parce que si l'on tient compte de 4 semaines entre les deux doses, je sais qu'on est passé à 6 semaines, mais c'est uniquement pour pouvoir éventuellement faciliter plus de premières doses, mais médicalement c'est 4 semaines. Donc nous envisageons l'arrêt des opérations le 15 juin, parce que la saison va démarrer, il y a les vacances des personnels médicaux, paramédicaux, etc. Et donc, il ne nous semble pas envisageable de continuer au-delà du 15 juin. Je rappelle aussi qu'il y a des possibilités nombreuses à Montélimar, par exemple, mais aussi à Crès, à Nyons, à Vavrias. Pour vous donner un petit exemple de la situation, Montélimar a mis sur le site de vaccination toutes les journées du mois de mai, ça a été mis vers le 24 avril, et à l'heure actuelle, il n'y a que les 4-5 premiers jours qui ont été pris, et à partir du 9 mai, par exemple, toutes les journées, toutes les 5 minutes, il y a possibilité de se faire vacciner. Voilà. Alors que les mois précédents, dès que c'était mis, dans la journée ou les deux jours qui suivaient, il n'y avait plus de possibilité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire?
Les élections,
c'est vrai que nous avons... Oui, alors qui? Il reste des possibilités. Alors pour qui ces possibilités? Essentiellement quand même tout d'abord pour les dernières alternataires de plus de 70 ans qui seraient finalement décidées. Mais il y a aussi la possibilité pour les gens qui sont exposés, tels que les enseignants, tels que les aides ménagères, et en particulier aussi les assesseurs lors des prochaines élections, les assesseurs et les élus qui participeront à la deuxième quinzaine de juin aux élections. Il est vivement conseillé de se faire vacciner sur ce plan si on veut être assesseur. Voilà.
Juste une précision, Jacques.
Oui.
Est-ce que... Donc, il faut encore avoir 70 ans pour se faire vacciner ou faire partie des gens que tu viens d'énumérer?
Oui.
C'est y compris à Montélimar, là où il y a de la place?
Oui. À Montélimar, c'est actuellement, c'est, sur le plan national, c'est 60 ans ou 55 ans en cas de situation particulière, en particulier de comorbidité. Voilà. Mais au-delà, je pense qu'il faut tenir compte d'un principe fondamental dans cette opération. Il n'est pas question de perdre une seule dose. Et tous nos efforts d'organisation vont vers cela.
Et c'est pas facile parce qu'il y a 7 doses ou 6. Donc c'est vrai que Jacques s'est beaucoup investi sur cette vaccination et a réussi le défi de ne perdre aucune dose sur les 500 qui ont été distribuées. Je pense qu'on n'en a pas perdu. Zéro. Nadia.
Et on a eu toutes les 7e doses sauf deux fois où il y a eu un tir raté. La 7e dose n'a pas été tirée par deux fois. Sinon, toutes les autres fois, la 7e dose a été tirée. Et je précise bien, parce qu'on m'a posé la question,
la 7e dose est une dose pleine et entière. Parce qu'une personne m'a dit, mais votre 7e dose, est-ce qu'elle est bien complète? Non, bien sûr, elle est complète.
Je voudrais juste rajouter qu'on peut se faire vacciner depuis déjà... un mois et demi, enfin moi je crois que ça fait depuis un mois que je suis vaccinée par le docteur Delin au cabinet médical. Alors je sais que c'est l'AstraZeneca, mais quand on n'a pas trop peur de l'AstraZeneca, on peut se faire vacciner. Autant, c'est un peu inquiétant, mais tu vois, j'ai pas trop de suite pour l'instant. Voilà.
Oui, je confirme bien. C'est ça depuis un mois et demi. Il y a possibilité chez le pharmacien et chez les docteurs. Il y a eu d'ailleurs une petite rivalité parce qu'un coup c'était les pharmaciens qui étaient livrés, un autre coup c'était les docteurs. Et puis passé un moment, ils n'ont plus rien reçu et maintenant ils ont reçu. Mais le problème c'est que ça reste un petit peu. J'ai un infirmier qui m'a dit qu'il avait dans son frigo trois doses et qu'il n'arrivait pas.
Moi, je voudrais juste rajouter une chose, tout comme tu as pu le dire, Christian, moi je tiens à saluer le travail, le dévouement que vous y mettez, monsieur Blaise. Sincèrement, merci. Merci pour les vieux fitois et l'ensemble de la population. Voilà. Tiens à souligner.
Juste un mot, parmi les bonnes nouvelles, donc nous avons eu le plaisir de recevoir une œuvre d'un artiste diolfitois, sculpteur, qui s'appelle François Colette. Nous l'avons remercié pour cette œuvre qui est un cadeau de poids. Stéphane en sait quelque chose que c'est lui qui l'a porté, plus de 20 kilos, et que nous allons l'accrocher au foyer dès que nous le pourrons. Et ce monsieur nous dit qu'il nous offre cette œuvre parce qu'il fait bon vivre à Dieu le Fils et qu'il aime le côté chaleureux des habitants. Voilà, je tenais à vous faire part de ce qu'il m'a dit au téléphone.
Je reviens à une toute petite précision qu'on vient de me donner en ce qui concerne les assesseurs pour les élections. Les assesseurs sont vaccinés ou bien ils présenteront un certificat comme quoi ils ont passé les tests et qu'ils sont négatifs.
et 27.
Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses?
Là, je vais changer un peu de domaine, vous m'excuserez, mais si la question m'a posé, m'ont posé deux personnes, et c'est pas tout à fait le même domaine, vous allez voir, ça concerne les déjections canines. Tout simplement, il fut une époque où la mairie distribuait des sacs plastiques, chose qu'on connaît puisqu'on avait mis en place avec le conseil municipal des jeunes à l'époque. Et il a été répondu à ces deux personnes qu'en fait, on ne distribuait plus le sac. Voilà, donc le questionnement était, est-ce que vous allez en mettre en place, peut-être des biodégradables ou je ne sais pas, ou est-ce que vous avez une solution ou alors en papier, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous continuez dans cette démarche ou pas, voilà.
C'est Vincent qui veut répondre.
Oui, juste un petit détail là-dessus. En fait, oui, effectivement, excusez-moi, ça a été évoqué à plusieurs reprises pendant les réunions du personnel. Après, enfin, apparemment, le premier frein, d'ailleurs, petit appel à la population à ce sujet-là, c'est qu'en fait, on se faisait voler tous les sacs qu'on mettait à disposition. Les gens peuvent tirer carrément le rouleau entier, en fait. Donc, on se retrouvait sans sac, et il y a un moment où, voilà, avant notre arrivée, les services techniques ont dit « stop, en fait, ça sert à rien, quoi ». Donc, effectivement, on réfléchit à une solution, mais apparemment, ces sacs mis à disposition, c'est pas forcément la solution. Donc, on est dessus, mais ouais.
Et s'il en reste, peut-être continuer à les mettre à disposition malgré tout, parce qu'ils peuvent au moins servir. Mm-hmm. Pas qu'à ça, mais
effectivement, oui. Enfin, j'ai pas plus de précisions effectivement à donner pour l'instant, mais.
Non, mais moi je trouve que c'est une question hyper importante, même si ça paraît un peu stupide, mais les déjections canines, c'est un vrai problème dans la ville. Et je vais vous parler de moi, parce que. Ça va vous intéresser forcément. Je suis partie à la Grande Motte parce que j'ai ma mère qui habite là-bas, donc j'ai le droit d'y aller. Et j'ai observé tous les aménagements urbains et les équipements en termes de propreté, et j'ai été stupéfaite de voir que, parce que j'ai un chien, figurez-vous, où que je me tourne, il y avait un canicrotte, une poubelle à côté, c'est-à-dire que j'ai jamais été en... Et moi, à Gueulphy, je me balade avec mon sac noir pendant des centaines de mètres avant de trouver une poubelle. Donc c'est un vrai problème auquel j'ai vraiment très envie qu'on s'attelle. Et merci de le soulever et soyez très attentifs. Rappelez-le-moi si ce n'est pas fait assez tôt. Il faut qu'on trouve une solution.
Oui, aux dernières informations, effectivement, des sacs sont toujours disponibles en mairie. Ouais.
Alors après, les sacs, ça ne coûte pas super cher. Hein. Je pense que voilà, ce n'est pas si compliqué de se fournir en sac, mais c'est un processus global, en fait, avoir le sac, avoir la poubelle. Ben, ce n'est pas juste les sacs, quoi. Mais il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Merci pour cette alerte. Ça me plaît bien.
Ok, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, non, ça va. Je vous propose de lever la séance et je vous remercie. Donc rendez-vous le 7 juin pour le prochain conseil municipal. Merci.